Bonsoir. Clôture ce week-end de la session extraordinaire au Parlement. Le projet de loi portant répartition des sièges aux élections municipales et locales a été rejeté en seconde lecture au Sénat, alors qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale. Cette situation risque, selon certains analystes, de bloquer la CENI qui a besoin de ce texte pour l'organisation des élections au niveau local. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 3 août 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Moïse Nyarugabo, sénateur de l'opposition et cadre du RCD. Maître Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Ambroise Kamunkuni, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et député national de la majorité présidentielle. Professeur Kamunkuni, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et bienvenue, Marie Bakoumania, directeur de la rédaction économie du quotidien Le Potentiel. Il est aussi à la liste économique et politique. Bonsoir. Bienvenue, voilà, Marie Bakoumania.
Bonsoir, cher consoeur.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La session extraordinaire du Parlement s'est clôturée hier à Kinshasa sur un goût d'inachevé quant à l'adoption du projet de loi portant répartition des sièges pour les municipales et locales. Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, ce projet de loi n'a pas été adopté vendredi en seconde lecture par le Sénat, ce qui risquerait, selon plusieurs analystes, de bloquer la CENI qui doit se servir de ce cadre normatif pour l'organisation des élections locales. Le compte rendu avec vous, Jacques-Yves Molima.
L'ambiguïté plane encore, d'autant plus que le président de la Chambre basse du Parlement, lors de la clôture de la session extraordinaire, a appelé ses pairs à la patience. Obaminaku.
Étant donné que nous n'avons pas encore reçu la correspondance sur les résultats du Sénat, votre bureau et la plénière, nous devons patienter avant de tirer les conséquences de droit découlant des dispositions constitutionnelle en pareille circonstance. Donc, il n'y a pas de place à débat.
En effet, d'après le président de la commission PAJ du Sénat, il n'y a pas de divergence de vues quant à ces projets dans les deux chambres au niveau de la commission. Sébastien Adambou.
Dans le cas d'espèce, on n'a pas voté en termes divergents. C'est un terme identique et il faut qu'on donne le temps aux parlementaires de voir ce qu'ils allaient le faire. Peut-être vont-ils contacter la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On verra dans les jours qui viennent.
Pendant ces temps, la convocation de l'électorat par la CENI pour les élections communales et locales ne peut intervenir que si cette loi est votée et promulguée par le chef de l'État.
Merci Jacques-Yves Molima. Maître Moïse Nyarugabo, je rappelle que vous êtes sénateur, membre de l'opposition et cadre du RCD. Quelles sont les raisons qui ont poussé le Sénat à rejeter cette loi?
Bon, écoutez, je ne suis pas d'abord porte-parole du Sénat.
Vous êtes sénateur?
Je suis sénateur, justement, mais pas porte-parole du Sénat. Il y a eu beaucoup de raisons. Mais tout celui qui vote n'est pas tenu de se justifier, de justifier pourquoi il a voté non, pourquoi il a voté abstention, ou pourquoi il a voté oui. Mais par rapport au débat, beaucoup de sénateurs ont insisté sur les annexes qui étaient en fait l'objet de la loi. Les annexes pour lesquelles ils estiment qu'il y a beaucoup de questions non réglées. Dans la répartition des sièges, on trouve qu'il y a des groupements dans le même territoire, dans la même circonscription pratiquement, où un groupement a le même nombre d'électeurs ou d'enrôlés, mais dans un groupement, ils ont 8 sièges avec 12 000 enrôlés, un autre avec un seul siège, un autre avec 4 sièges. Donc, il y avait des questions pour lesquels ils avaient besoin d'explications au niveau de la CENI. Mais aussi, une autre question principale, plutôt politique, c'est que, apprenant que le président avait pris position, le président de la République, que le nouveau majeur doit non seulement voter, mais être enrôlé et voter, et qu'il y en avait entre 5 millions et 8 millions, ceux qui sont devenus majeurs depuis 2006, je crois, depuis 2006, ou alors au plus tard depuis 2011, et que donc l'enrôlement était dans le calendrier de la CENI. Ils ont estimé donc qu'il fallait qu'on procède d'abord par l'enrôlement de ces nouveaux majeurs et qu'on fasse la répartition une fois pour toutes parce que ça va absolument impacter cette répartition-là. Donc ce sont les deux raisons majeures qui ont fait que beaucoup de sénateurs ont... Pas beaucoup, en fait. Beaucoup ont voté oui, mais le vote n'était pas suffisant pour que la loi passe. On n'a pas atteint le quorum de vote nécessaire pour qu'une décision soit valable. Et ceux qui ont dit non étaient minoritaires, mais ça a eu l'effet de blocage, donc de faire que la loi soit déclarée rejetée.
Et qu'est-ce qui va se passer alors, maintenant que la session extraordinaire s'est clôturée?
Écoutez,
est-ce qu'il faut attendre la session de septembre pour revenir sur ce projet de loi?
Personnellement, je pense que c'est la meilleure solution. Lorsqu'une loi est rejetée et n'est pas votée par une chambre, on ne peut pas passer à la commission paritaire, mixte paritaire. La commission mixte paritaire est mise en place lorsque les deux chambres ont voté la loi, mais en deux termes non identiques. La commission est mise en place pour harmoniser, pour vider ces divergences, pour que la loi soit adoptée en termes identiques et soit envoyée au président de la République pour promulgation. Mais lorsque une chambre n'a pas adopté, on ne peut pas mettre sur pied une commission paritaire et donc il n'y a pas moyen d'harmoniser. Et je pense que la meilleure façon, c'est de revenir sur la loi. Il faut qu'on reprenne, que le ministre ramène le projet, peut-être amélioré, peut-être corrigé, peut-être de laquelle on aura extrait les éléments qu'on reprochait au projet, et on refait en fait la procédure. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Soit c'est attendre les 45 jours, on peut l'examiner en urgence à la rentrée, ou je ne sais pas si c'est permis qu'il y ait une deuxième session extraordinaire, c'est une question discutable. J'apprends qu'il pourrait y avoir une deuxième session extraordinaire.
Alors nous avons appris cela aussi. Est-ce que vous nous confirmez cela en tant que sénateur? Est-ce que vous avez une confirmation dans ce sens-là qu'une autre session extraordinaire serait convoquée?
Oui,
au Sénat.
Absolument. Je ne sais pas si seulement le Sénat. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir une session extraordinaire d'une chambre. Si on veut être conséquent, on doit convoquer les deux chambres et réexaminer le texte et peut-être corriger les irrégularités pour faire passer la loi. Mais convoquer une seule session, une seule chambre, je ne sais pas si c'est faisable. Et si on ne vote pas en des termes identiques, comment on va avoir la commission mixte paritaire si l'autre chambre est en vacances? Je crois que c'est ça le problème. Vous demandez si c'est constitutionnel d'avoir une deuxième
session extraordinaire.
Je ne sais pas. Personnellement, j'essaie d'examiner l'article 116 de la Constitution qui parle de la session extraordinaire. Elle ne dit pas expressément qu'il est interdit, elle ne dit pas expressément qu'il est permis. La disposition ou l'article stipule que chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée, et au plus tard 30 jours à compter de la date du début de la session. Donc nulle part il est dit que c'est absolument une session extraordinaire entre deux sessions. Nulle part c'est dit. Mais nulle part c'est dit non plus que c'est faisable. Donc c'est une question d'interprétation et surtout que ça n'a jamais existé depuis les dernières législatures.
Merci Maître Moïse Nerugabo, je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Ambroise Kiamukuni, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et député national de la majorité présidentielle, quelle lecture vous faites de cette situation?
Je crois que l'analyse faite par le sénateur est dans le même sens de mon raisonnement. De toutes les façons, contrairement au fait à ce que la presse raconte, le projet de loi n'a pas été rejeté. Je crois que notre collègue l'a précisé. Il a simplement manqué le quorum du vote. C'est ça la réalité. Donc le processus peut encore être relancé. Et dans ce cadre, contrairement à mon collègue qui hésite, la Constitution, effectivement, n'interdit pas. qu'il y ait une deuxième session extraordinaire pour pouvoir élaguer, terminer ce problème, terminer le processus qui est en cours, justement, pouvoir de toutes les façons. Il y a déjà eu dans l'histoire du Congo, notamment au niveau du Sénat, pour le dossier Ouada, il y a déjà eu effectivement une fermeture des sessions extraordinaires pendant qu'en dernière minute, il fallait bien qu'on statue. On s'en est quand même sorti en 2010, mais je crois que cette fois-ci, nous avons espoir que ça peut sortir également. Il y a une deuxième possibilité qu'il a évoquée également, la possibilité de l'article 135. Est-ce que cette possibilité est uniquement limitée lorsque les deux chambres n'ont pas voté le texte dans les termes identiques? Ça, il faut se le demander. C'est vrai, le règlement intérieur de l'Assemblée et du Sénat précise cela. Mais sinon, la Constitution, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux chambres, les deux bureaux. C'est vrai, cette possibilité, sans convocation d'une session extraordinaire en plus, ou sans attendre la session ordinaire, ça va être presque irréalisable. À moins d'estimer que, tel que le projet de loi avait été soumis au vote, il allait pratiquement dans le même sens que le texte adopté par l'Assemblée nationale. En ce moment, il y avait beaucoup de chances que si le quorum de vote avait existé, il n'y aurait pas de paritaire parce que, au fait, le texte aurait été voté dans les mêmes termes par le Sénat qu'il l'avait été par l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, le texte, le vote n'a pas abouti, le processus n'est pas pour autant bloqué et le projet n'a pas été rejeté.
Mais certains analystes estiment que cette situation risque de bloquer le processus parce qu'il faut réfléchir encore si on doit convoquer une autre session extraordinaire pour régler la question ou il faut attendre septembre.
Mais justement, c'est ça nos appréhensions à tous. Nous attendons de ce côté-là. Quelle est la position officielle du Sénat, justement? Le président de l'Assemblée nationale l'avait dit. Nous ne savons pas encore, le collègue dit qu'il y a des rumeurs sur l'éventuelle convocation d'une session extraordinaire. Va-t-on convoquer seulement le Sénat à l'absence de l'Assemblée nationale? Mais pourvu que le texte soit voté dans les mêmes termes. Ce n'est pas interdit non plus qu'une seule chambre soit convoquée en session extraordinaire.
Mais le texte a été, je crois, voté dans les mêmes termes. Il n'y a pas divergence de vue.
Il n'y a pas divergence jusqu'à ce niveau. Mais il n'y a que le vote conséquent qui a manqué au niveau du Sénat. Mais sinon, c'est le même texte qui a été soumis aux voix, mais qui n'a pas eu cette chance d'avoir le quorum de vote.
Alors, les raisons avancées par les Sénats par rapport au régime, entre guillemets, de ce projet de loi, on parle des raisons politiques, entre autres l'enrôlement des nouveaux majeurs, et puis des irrégularités constatées dans les annexes. Au niveau de l'Assemblée, vous avez préféré laisser passer ces irrégularités en adoptant ce projet de loi?
Non, pas du tout. On n'a pas laissé passer des irrégularités. Il y avait des réclamations qui avaient été faites sur les annexes, sur la partie technique. Mais ça avait été recommandé que toutes ces recommandations devaient être corrigées par la CENI. On en a tenu compte. Et au fait, affirmer que le projet n'est pas passé parce qu'il y avait des irrégularités dénoncées au Sénat, je pense que c'est trop dire. Parce que nous voyons très bien que ce qui a manqué, ce n'est pas parce que la majorité du Sénat a dit non au projet. Non, simplement non. Ceux qui ont voté non étaient totalement minoritaires. Ce qui signifie que la grande majorité du Sénat, puisque des sénateurs qui étaient présents, a voté oui pour ce texte-là. Ce qui signifie que ce n'est pas cette raison-là qui a vraiment milité en cela. Il faut aussi reconnaître que nous étions à la fin de la session, et la fatigue aidant, beaucoup de sénateurs ne sont pas venus à la plénière. C'est ça la vérité. Il y a 108 sénateurs, il y avait beaucoup moins que ça. Est-ce que cela, c'est le concours de la position politique du Sénat? Bon, je ne suis pas sénateur.
À l'Assemblée nationale, on dit que vous avez fait ce travail dans la précipitation aussi, parce qu'il fallait faire vite, on est vers la fin de la session extraordinaire.
Mais madame, dire que nous avons fait le travail dans la précipitation, c'est se moquer de nous. Parce que vous vous rappelez que ce travail a été présenté en session ordinaire. Et il y a eu des débats à ce sujet, et le texte a été à nouveau remis au gouvernement. Pour faire des corrections nécessaires. Les députés nationaux ont pris tout le temps pour analyser le texte. Et ils l'ont prouvé. Et comme le texte est arrivé cette fois-ci accompagné des techniciens de la CENI, ils nous ont convaincus du bien fondé du texte et nous l'avons voté en âme et conscience.
Madame. Merci professeur Kamunkuni. Bienvenue. Marie Makoubane, directeur de la rédaction économie du quotidien Le Potentiel. Vous êtes aussi analyste économique et politique. Quelle est votre lecture à vous de cette situation?
Écoutez, cette situation met à nu l'hypocrisie de la classe politique, majorité et opposition, plus particulièrement la majorité. Nous avons vécu dans ce pays un front commun lors du refus par la majorité à l'Assemblée nationale de voter cette loi lors de sa première présentation par le gouvernement de la République. À mon sens, sans les débats juridiques, vous allez m'en épargner, mais je vais analyser politiquement la question donc. À mon sens, ce fonds commun a continué à exister, malgré que beaucoup d'eau passait sous le pont dans l'inter-deux sessions, la session ordinaire et la session extraordinaire. Et moi, j'en veux pour preuve la position de l'Assemblée nationale de refuser tout débat sur les annexes. En fait, on ne voulait pas rouvrir la boîte de Pandore, d'autant plus que cette boîte contenait des incongruités et irrégularités, ce sont les propres termes des députés, de la majorité et de l'opposition. Alors même que présentement à l'Assemblée nationale, seuls les députés de la majorité sont en train de siéger. Et c'est là que moi je trouve qu'il y a réellement hypocrisie. Parce que en expédiant de cette manière-là, c'est-à-dire sans débat, le projet de loi soumis par le gouvernement, avec comme prétexte, il n'y avait que les deux articles qu'il fallait débattre et que le reste, c'est le travail de la CENI, la majorité, les députés de la majorité ont failli à leur mission. Parce que ce projet qui vient du gouvernement, ce n'est qu'un projet. Et même le vice-premier ministre l'a dit, il appartenait aux députés de le disséquer, d'enlever ce qui était à enlever, hein, de corriger ce qui était à corriger. Il leur revenait de s'approprier ce projet, de le traiter en toute responsabilité. Mais curieusement, nos élus ont dit qu'on l'adopte sans débat. Ça les a rattrapés aujourd'hui, au niveau du Sénat, où le vote a été difficilement atteint. 62 personnes sénateurs présents, 47 ont voté pour, 13 se sont abstenus, 2 seulement ont voté contre. Mais cela a amené au blocage que nous déplorons aujourd'hui, un blocage que moi je déplore personnellement. Je pense que la classe politique doit être sincère avec elle-même. Personne ne veut de ces élections locales, urbaines, et de ces élections au niveau de la base, personne n'en veut maintenant. Ils sont tous conscients que ça va créer beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres tensions. Ils n'ont qu'à l'exprimer clairement. Et la codification de l'expression des chambres, c'est le vote. C'est le débat. Pourquoi est-ce qu'une assemblée peut refuser de débattre d'une question aussi importante, la renvoyer, l'expédier de manière quelque peu regrettable, telle que ça a été fait sans débat? Pourquoi est-ce qu'une assemblée peut démissionner de cette manière-là, alors que on pouvait, en toute responsabilité, corriger ce qui pouvait l'être? Les griefs portés contre ces projets de loi notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs. Ce sont des griefs qui peuvent trouver réponse au niveau de la Cour suprême de justice. Et j'apprends aujourd'hui que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, se propose de fixer l'affaire dans la semaine qui commence. Moi, je crois que toute précipitation en cette période n'est pas la bienvenue. Parce que les pressions que tout cela peut engendrer, les tensions, je vous laisse dire, que tout cela peut engendrer, ne permet pas qu'on ait des élections apaisées.
Le problème, c'est plus qu'on parle des précipitations.
Ben, moi, je me dis, lorsqu'on n'a pas examiné, on n'a pas débattu. C'était voté, hein. C'était en plénière, c'était public. Il y a eu une motion et l'Assemblée a voté qu'on expédiera cette loi sans discuter du contenu des annexes. C'était pas huis clos, c'était public. Tout le monde l'avait suivi que l'Assemblée avait levé une option, qu'elle ne débattrait pas du contenu des annexes. Ce qui était à mon sens, c'est une démission. C'est une démission extrêmement préjudiciable à la marche de la démocratie. Donc, pour revenir à la question des nouveaux majeurs, qui sera examiné par la Cour constitutionnelle incessamment. Et est-ce qu'on ne ferait pas stratégiquement, et pour le bien de la République, pour le bien du trésor public, parce que ces sessions extraordinaires coûtent de l'argent au trésor public, est-ce que pour également l'image de nos institutions, du bon fonctionnement de nos institutions, qui peuvent convoquer une session extraordinaire qui n'aboutit à rien, on reconvoque encore une deuxième, c'est comme si on procédait par essai et erreur. Alors que nous avons quand même grandi, notre démocratie a grandi. Je pense que pour ces raisons, il y a des motifs valables pour qu'on puisse attendre. On ne se précipite pas. Si c'est cette échéance de novembre 2016 qui hante tellement les esprits, mais le ciel ne tombera pas sur la tête du Congolais.
Merci beaucoup, Marie Bakoumania, Maître Moïse Niarugabo. On va prendre pour vous cette réaction. Cette réaction qui nous vient depuis Kinshasa.
Patient Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Dans la mesure où le rejet de cette loi est une prévention contre tout glissement, comme le veut la majorité du peuple congolais, c'est un geste salutaire contre le passage en force dénoncé et soutenu par les unes ou les autres forces politiques du pays. Doutons aussi que ça ne soit une façon pour les pénates de s'éterniser au pouvoir et de l'appliquer son mandat jusque-là largement illégitime.
Comment vous répondez à cet auditeur, Maître Nergavou?
Disons, ce n'est ni l'un ni l'autre le motif qui a guidé le Sénat dans sa réflexion et dans son vote. Ce n'est pas pour s'éterniser. J'ai appris justement qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est parce que le Sénat ne veut pas qu'il y ait des élections, qui a fait que, disons, les élections qui les concernent, qu'ils ont rejeté cette loi. Je porte à la connaissance de l'opinion que pour les élections des sénateurs, on n'a pas besoin des élections locales, municipales et urbaines. C'est plutôt les élections provinciales. Or, pour les élections provinciales, la répartition des sièges existe déjà. Donc, ces élections provinciales peuvent avoir lieu, même si les locales, municipales et urbaines n'ont pas lieu. Ça veut dire que ce motif-là ne peut pas nous animer, parce que ça n'a pas de sens. Deuxième élément, que c'est pour empêcher le glissement, c'est pas non plus ça l'élément qui nous a motivés. Les éléments qui nous ont motivés, je vous les ai donnés. Peut-être que je peux dire, j'ai quand même quelques précisions à donner. Première, je veux simplement dire que l'Assemblée nationale ne peut pas reprocher au Sénat d'avoir rejeté la loi qu'elle-même avait rejetée au cours de la session de mars. En réalité, l'Assemblée nationale a renvoyé cette loi au gouvernement avec des termes les plus, je ne vais pas dire les plus méchants, mais les plus incisifs. Et je n'ai aucune garantie que les reproches que l'Assemblée nationale faisait à cette loi ont été corrigés. Je n'ai aucune garantie. Mais je ne rentre pas dans ce débat-là. Deuxième chose, il n'y a pas eu un problème de quorum. Il y a eu un problème. D'abord, il y a le quorum de siège. C'est vrai, il y avait un problème de quorum de siège. Pour que le Sénat statue régulièrement, il faut les deux tiers, 72 sénateurs. Il n'y en avait pas. Mais la loi, depuis la Constitution et la loi, ça, on permet qu'on convoque une séance subséquente. En ce moment-là, on n'a pas besoin de deux tiers. Et la séance a été convoquée. On était à 62. Et c'était normal. Donc c'était bien en termes de quorum de siège. Mais il y a un quorum de décision. Pour que les décisions du Sénat soient valables, il faut qu'elles soient prises par la majorité absolue. et la majorité absolue pour le Sénat, c'est 55. Et lorsque, s'il y avait eu 55 oui qui ont voté oui, la loi serait passée. Dès lors qu'il y avait moins de 55 qui ont dit oui, même si c'était une seule personne qui avait dit non, si on était à 55 par exemple et qu'une personne ait dit non, la loi devait être récalée. Et donc, je ne suis pas, moi, d'avis que le processus continue. Après chaque vote, on proclame les résultats. Et le président de chambre, du Sénat ou de l'Assemblée nationale dit, il y a eu autant de oui, autant de non, autant d'abstentions, et donc la loi, le Sénat vote la loi. Ou le Sénat rejette la loi. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui s'est fait toujours dans toutes les chambres du monde. Donc pour moi, la loi a été rejetée. Pour moi, je peux me tromper. Alors, et c'est pour cela que moi je pense qu'il faut recommencer dans une session extraordinaire ou dans une session ordinaire, donc dans 45 jours, on reprend le processus et ça se fait, ça se rattrape, on fait un nouveau débat, on améliore et puis on vote.
Dans les deux chambres.
Ensemble, si on vote dans le même terme, l'Assemblée nationale n'aura plus besoin de revenir sur son vote. Bon, ça peut être de manière formelle seulement, mais il n'y aura plus de débat. Mais s'il y a des modifications, si on vote en des termes
différents,
non identiques, en ce moment-là, l'Assemblée nationale devra siéger aussi, il y aura une commission rogatoire.
Alors, sénateur Nyaru Gabo, faut-il finalement repousser ces élections locales?
Non, je ne peux pas décider de ça. Je n'ai même pas une proposition à faire pour dire qu'il faut repousser. Je pense qu'il faut tenir compte du calendrier. Il faut respecter le calendrier si c'est possible. Mais est-ce que vraiment c'est à cause de cette loi que les élections vont être repoussées? Si c'est ça, alors...
La CENI a besoin de cette loi justement pour organiser ces élections.
Justement, la CENI aurait dû bien faire le travail. La CENI aurait dû bien faire le travail. Ce que lui ont reproché les députés, c'est ce que lui ont reproché les sénateurs. Ce sont les mêmes reproches, ce sont les mêmes problèmes. Donc, elle aurait dû faire bien le travail. La CENI s'attaque à la loi de janvier, la loi électorale qui a été votée en janvier dernier. Dans la commission, on lui a même dit qu'elle aurait dû proposer même la révision de cette loi-là. Si cette loi, quelque part, il y a une disposition qui consacre l'injustice, on aurait dû la revoir aussi. Elle n'est pas immuable.
Merci, Maître Nyaru Gabo, professeur Kamukuni. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemie.
Gilbert Mutambila Kigoma de Kalemie, dans la province du Tanganyika. À mon avis, cette situation devait être une leçon pour les députés et sénateurs de la majorité présidentielle qui n'avaient pas tenu compte des propositions de la CENCO et de l'opposition sur les reports de ces fameuses élections locales. Maintenant qu'il y a des blocages et que l'on va de report en report du calendrier électoral, la CENI est aussi bloquée dans son travail et directement la voie vers un glissement du mandat présidentiel se laisse déjà voir. Nos élus doivent savoir que le peuple congolais n'a pas besoin de toutes ces mascarades et tient fermement au respect de la Constitution à ce sujet.
Comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, mais l'auditeur fait un procès d'intention. Vous comprenez que je n'ai vraiment rien à lui répondre sur ce sujet. Parce que je crois que les lois se discutent sur le plan technique. Mais si on doit se faire des procès d'intention à tout moment, croire que parce qu'on veut organiser un glissement, alors on se perd dans les conjectures. Je ne vois pas comment, en quoi les députés, spécialement de la majorité et les sénateurs de la majorité, je crois qu'il n'y avait pas un problème de majorité et de l'opposition ici. C'est un problème technique devant lequel les députés se sont retrouvés en session ordinaire.
Sans l'opposition, sans une grande partie de l'opposition,
non,
par rapport à cette loi.
Tout le monde était encore là, je crois.
Vous avez voté cette loi, une grande partie de la majorité.
Mais ça, c'est maintenant. Au départ, nous avions eu à analyser cette loi en session ordinaire.
Qui avait été récalée, la loi avait été envoyée au gouvernement.
Et à mon sens, lorsque le vice-premier ministre ainsi que les techniciens de la CENI sont revenus avant le vote, il y a quand même eu des réponses qui ont été proposées aux députés et qui se sont dit satisfaits. Et c'est pour cette raison qu'ils ont voté la loi. que ça soit une leçon pour nous. Nous ne pensons pas qu'il y ait encore des leçons parce que le processus de cette loi, comme disait le collègue Moïse, ça continue et on pourrait bien relancer la loi. Ça dépend de ce que les autorités des deux chambres vont prendre comme décision. Nous allons être attentifs pour suivre cela et parler toujours des glissements. Vous pensez, les glissements, il a existé. Ces glissements, c'est un fait. Ça ne relève pas de la loi, les glissements. Aujourd'hui, les sénateurs ont glissé, les députés provinciaux ont glissé. Est-ce qu'il y a eu une loi qui a été mise en place pour ces glissements-là? Mais je crois qu'on se focalise un peu trop sur des suspicions qui n'ont aucun sens.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Mombasa, Rachidi, oui, il dit ceci, nos élus sèment la confusion dans nos têtes, finalement, laquelle des deux chambres représente une position réaliste et avantageuse. Le peuple en a marre avec ce genre de discordance. L'essentiel est d'avoir un calendrier réaliste, non étouffant, et pouvoir aboutir aux élections crédibles et apaisées.
Mais il a raison, le calendrier, il est là. Nous pensons que le calendrier global a été publié par la CENI. Ce n'est ni l'Assemblée nationale ni le Sénat qui fixent le calendrier. Il y a un organe technique qui s'occupe du calendrier. Si le calendrier n'est plus valable à un moment donné, il lui appartient. Ça s'est passé aussi lorsqu'il avait été proposé un calendrier pour l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. On a dû y revenir. Ces questions de conditions de travail, ces questions de beaucoup de paramètres dont on doit tenir compte dans le calendrier. L'essentiel, c'est que les élections se tiennent. Et les élections, nous espérons, se tiendront.
Alors, par rapport à la confusion que vous sémez dans la tête de la population...
Je disais, mais de toutes les façons, je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort, mais il y a parfois des débats contradictoires. Voyons, on se soupçonne mutuellement, on dit voilà, les autres ont, supposons ce qui a été dit ici, que les sénateurs ont bloqué la loi parce que pour qu'ils continuent à glisser. Vous voyez que le collègue s'est défendu et il s'est bien défendu. Et cette loi ne conditionne pas le renouvellement du Sénat, pas du tout. Et du côté de ceux qui nous écoutent, ils doivent aussi faire attention. Et nous-mêmes, nous qui faisons des discours à longueur de journée, nous devrons faire attention pour ne pas
induire le peuple en erreur
dans des discussions parfois qui n'ont aucune base légale, qui n'ont même pas un sens dans la logique. Il y a lieu qui s'en plaignent.
Merci, professeur. Bienvenue, Marie Bakoumania. Il y a Bernard Kazadi qui nous écrit depuis Meneditou. Il n'y a rien à forcer quand il s'agit de gérer la chose publique. Il serait mieux de reporter toutes les élections locales afin de bien préparer les présidentielles et législatives de 2016 qui sont pour nous, peuple congolais, les plus importantes et les plus capitales pour notre pays. La RDC... afin que la RDC ne sombre pas dans une crise éternelle.
Oui, je partage entièrement ce point de vue. Et je considère que dans une société, lorsqu'il y a des problèmes, il faut toujours savoir les aborder avec responsabilité. Et lorsqu'il s'agit des problèmes d'État, et ici, les élections, avec cette contrainte constitutionnelle de novembre 2016, ne devraient pas enlever dans la tête des Congolais qu'on est une communauté d'humains, que l'on peut discuter de la question, et que s'il s'avérait que les contraintes, admettons qu'aujourd'hui il y ait une catastrophe, est-ce qu'on tiendrait absolument ces élections à la date précitée? Je pense qu'il y a une dose de responsabilité qui doit s'imposer dans la classe politique, dans la compréhension de certaines matières. Et lorsque nous observons tout ceci, tout ce qui se passe, tout ce spectacle, c'est nous qui sommes population, ça ne nous enchante pas du tout. On s'est dit que les uns ne travaillent que pour conserver le pouvoir et les autres ne travaillent que pour chercher à accéder au pouvoir. Et c'est comme ça que vous avez entendu les auditeurs poser des questions allant dans le sens d'évoquer la question du glissement. Alors même que les locales et les municipales n'appellent pas à un glissement. Vous voyez comment on fait ces raccordements ? Simplement parce que les gens ont comme l'impression qu'on est en train de les dribbler quelque part. Hein, toute attitude qui donne l'impression d'être un forcing ne passe pas. Ne passe pas dans l'opinion. On la comprend pas, ces attitudes-là. Et il y a moyen de faire bien les choses. Par exemple, pour le moment, convoquer une session extraordinaire du Sénat, c'est de la précipitation. C'est simplement de la précipitation. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous serons butés à cette difficulté, même si ça passe.
Qu'il faut attendre la session de septembre.
Mais il faut attendre. Attendons. On presse pourquoi? Hein, les sel ne tombera pas sur nos têtes si le 20 novembre, il n'y a pas élection. Le ciel ne tombera pas. Il suffit qu'on négocie bien les choses, qu'on soit, on ne peut plus clair. Parce que là, tout ce qui se fait dans l'opacité, tel qu'actuellement, crée des suspicions. Mais laissez-nous aussi le droit d'avoir nos idées, nos idées derrière la tête, nous, population. Hein, nous devons avoir des idées parce que tout s'est fait dans quasiment un cafouillage. Et lorsqu'il y a cafouillage, les suspicions deviennent légitimes.
Il faut respecter le calendrier. Parce qu'il y a besoin de cette loi.
Le fétichisme sur les dates et les calendriers, j'ai dit tout à l'heure qu'on est des humains. Même la Constitution, c'est une œuvre humaine. On peut discuter de la question. Il suffit que les choses soient transparentes et les choses soient claires. De mon point de vue, on doit sursoir et attendre la session ordinaire. On doit attendre que la Cour constitutionnelle se prononce sur ces cas de nouveau majeur. En ce moment-là, on aura tous les matériaux qui permettraient de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause.
Alors, il y a Bernardin Koulidri qui nous écrit de WhatsApp, il dit face à toute cette précipitation, le dialogue serait la solution pour la mise à jour du fichier électoral et consacrer les restes du temps à l'élection présidentielle 2016.
Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit la même chose que ce que moi j'ai dit. Il faut que les gens acceptent de se parler. Il faut que pas nécessairement pour avoir un partage équitable et équilibré dans le gouvernement. Il faut que les gens acceptent de se parler. Lorsqu'on voit se profiler à l'horizon des vraies difficultés dans l'organisation des élections. Ça, ce ne sont que des épiphénomènes. Ce qui est à venir est pire. Parce que si je ne fais pas le prophète, non, moi j'analyse ce que je vois, ce qui est en ma possession, les informations en ma possession. Si on continue à croire que dans les cafouillages, on peut tout se permettre, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, les gens se trompent grandement. Parce que la population, elle est avertie. Elle a les yeux grandement ouverts et la population attend que les uns et les autres adoptent des attitudes de responsabilité. Jusque-là, je n'en vois pas. Je n'en vois pas de part et d'autre. Parce que s'il y avait des attitudes de responsabilité, le dialogue se serait déjà tenu. Les présidents ont fait des consultations il y a plusieurs mois aujourd'hui. Pendant qu'on attendait les conclusions, bon, il y a des inaugurations à faire, la République doit continuer de fonctionner. Mais aujourd'hui, la population attend que le président nous livre les conclusions de ces consultations. On ne le fait pas. On attend quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne se précipite pas sur ce volet-là?
Merci, bienvenue Marie Wakoumania, Maître Moïse Nyarugabo. Quelle serait la solution?
Avant de faire une proposition, je voulais simplement dire que on n'est pas en train de semer la confusion dans les esprits de nos compatriotes et de nos électeurs. Le vote divergent est plutôt une preuve de démocratie. Moi, je pense que ça devait même être encouragé. Parce qu'il n'y a que dans notre pays où le vote divergent est considéré comme un scandale, comme un crime. Non, on a choisi le système bicaméral pour avoir deux chambres, pour favoriser la contradiction. Pas la confrontation, mais la contradiction. Et c'est de cette contradiction que jaillit la lumière, l'intelligence, la sagesse. Et c'est pour cela que ce que le Sénat a fait, ça passe par l'Assemblée pour que l'Assemblée mette encore la main et fignole. Ce qui est passé par l'Assemblée vient au Sénat pour que le Sénat y mette la main encore et fignole. C'est le sens du bicaméralisme. Donc, c'est même dans l'essence du bicaméralisme, c'est la contradiction. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai bien peur que nous puissions absolument focaliser sur cette loi comme si c'était la clé de tout. Si nous faisons comme ça, nous aurons commis une erreur. Parce que si quand même cette loi est votée et qu'il n'y ait pas élection en octobre, Ouais, ça reste plutôt de nous être opposés comme si on s'est acharné pour pas grand chose. Donc je crois que c'est des questions sur lesquelles on doit réfléchir. On doit mettre de la forme, on doit essayer de mettre de la correction dans ce que nous faisons. Et j'en viens maintenant à la solution. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est plus une rumeur que le Sénat est convoqué en session extraordinaire. Ce n'est plus une rumeur. C'est peut-être une information, c'est peut-être même un renseignement. Je crois que c'est fait. Alors, en tout cas, si ce n'est pas encore fait, au moins c'est décidé. Alors, j'espère de tout mon cœur que ce ne sera pas seulement le Sénat qui est convoqué. On va convoquer aussi l'Assemblée nationale. Si on convoque seulement le Sénat, on aura considéré que le Sénat n'a pas voté, que la loi n'a pas été rejetée, alors que c'est le cas. Deux, dans tous les cas, on aura obligé le Sénat à voter dans le même terme que l'Assemblée nationale, ce qui lui aura en fait privé du pouvoir ou du droit d'exiger des améliorations de la CENI ou du ministère de l'Intérieur, qui devait se faire dans l'intérêt de nous tous. Donc j'espère de tout mon cœur que si on passe par la session extraordinaire, pour laquelle j'ai quand même de petites inquiétudes par rapport au règlement intérieur du Sénat, qui me donne l'impression que ce règlement-là, qui est passé par la Cour suprême, ne considère qu'une seule session extraordinaire entre deux sessions ordinaires. Mais ça, c'est discutable. Et donc, donc on devait... Si on doit passer par la session extraordinaire, qu'on convoque les deux chambres. Si on peut attendre la session de septembre, que cette question soit examinée aussi en urgence, à la première semaine, elle peut être évacuée. Donc, merci. C'est possible.
Merci, Maître Moïse Niarugabo, professeur Kamukuni. Vous allez aussi conclure. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui estiment que cette session extraordinaire a été vraiment un gâchis, une perte de temps?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On a quand même voté beaucoup d'autres lois. Et la session n'était pas convoquée uniquement pour la loi relative à la répartition des sièges. Il était aussi convoqué pour d'autres lois qui ont été votées et le travail a été bien fait. Vous avez remarqué que nous avons été félicités. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un couac pour une loi qu'on pense que la session n'a servi à rien. On a beaucoup travaillé, comme d'habitude d'ailleurs. Et nous ne pouvons pas nous jeter des fleurs, mais nous savons que au niveau de notre législature, on travaille beaucoup et il y a beaucoup de lois qui sont votées, qui sont promulguées par le chef de l'État.
Et par rapport à c'est quoi la solution?
La solution, elle a été proposée par mon collègue, je l'adopte également. S'il y a la session extraordinaire, on aura évacué. Si cela n'est pas possible, on évacuera bien cette loi bientôt.
Bientôt
en session ordinaire, bien entendu.
Merci, professeur Kabukuni. Bienvenue, Marie Bakoumania, en guise de conclusion.
Oui, moi j'invite instamment les dirigeants de mon pays à ne pas agir dans la précipitation. Toute action qui se fait dans la précipitation est entourée d'élan de camouflage, d'élan de forcing, et dans l'opinion, elle n'est pas bien perçue. Et pour le cas sous examen, j'invite la classe politique, donc les dirigeants de mon pays, à beaucoup de patience, à attendre la session extraordinaire et à examiner la session ordinaire de septembre et à examiner froidement cette question des élections locales et municipales. Ce n'est pas en allant dans cette sorte de cacophonie qu'on pourra s'en sortir. Ça va en rajouter dans la confusion.
Merci, bienvenue Marie Bakoumania. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais qui m'a aidé à vous préparer et présenter cette émission. Guy Maté, Alain Hung, Biri Luchaka sous la supervision de Pelé Kipelamondo. Merci à Alain Goy qui était à la prise de son, micro Kéline Côté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.